Là, Jésus est allé trop loin. En sortant un homme de la mort, il a dépassé tous les tabous, outrepassé les limites de l'humain. Et surtout, il a fait éclater la tolérance des autorités. Qu'il fasse des miracles par son corps, qu'il s'érige en interprète privilégié de la parole de Dieu, cela devenait difficile à accepter, mais qu'il ramène à la vie un trépassé, c'en était trop. Juste après le récit de la résurrection de Lazare, les Juifs venus consoler Marie et sa sœur Marthe s'en vont voir les pharisiens et leur racontent ce dont ils viennent d'être témoins. C'est ce jour-là, dit le texte, qu'ils décidèrent de le faire périr. Un pas est fait en direction de Vendredi Saint, une marche irréversible vers la croix. À 2 semaines de Pâques, nous sommes encore en plein temps de carême, une période qui nous invite à réfléchir au sens de ces événements, à la signification de la croix et du tombeau vide. Et ce récit est un de ces textes qui, sans en avoir l'air, nous parle quelque part plus de la résurrection du Christ que de l'événement pleinement raconté. D'une certaine manière, les évangiles tout entiers ne parlent que de la résurrection du Christ. En effet, tous leurs textes ont été rédigés par des croyants, confessant leur foi au Christ ressuscité au travers de leur manière de raconter la vie et la mort de Jésus. Alors même que la plupart des récits de miracles ne tiennent qu'en une dizaine de versets, le récit de la résurrection de Lazare s'étend sur un long chapitre. Mais le fait même du retour à la vie n'est l'affaire que de quelques lignes. Le miracle proprement dit n'occupe pas beaucoup de place par rapport aux discussions, aux controverses, aux proclamations qui l'entourent. L'évangile de Jean ne compte que 7 miracles. Ceux-ci sont appelés non pas miracles, mais signes. Les actes de la puissance de Jésus sont signes de l'action de Dieu. Ils révèlent le Dieu dont Jésus est l'envoyé. Différemment des autres évangiles qui rapportent beaucoup de prodiges, Jean ne raconte que 7 signes, 7 actes de la puissance dont la résurrection de Lazare est le point culminant. Après celui-ci, Jésus n'opérera plus de signes. On est à la moitié de l'évangile, au chapitre 11, sur les 21 qu'il compte, et ce dernier préfigure peut-être celui qui pourrait être compris comme l'ultime signe, la résurrection du Christ. Il est étonnant de relever que, paradoxalement, une place somme toute assez petite est laissée à cet homme, Lazare, dans cette histoire. Ce n'est de loin pas la seule chose étonnante de cette affaire. Lorsque Jésus apprend que son ami est malade, il affirme « sa maladie n'aboutira pas à la mort, elle a pour but de montrer la puissance de Dieu ». Pas de parole de compassion pour son ami malade, pas d'émotion à l'annonce de son état, pas de mots de tendresse pour lui ou pour ses sœurs, pas de précipitation non plus à se rendre à son chevet. Jésus reste encore 2 jours là où il se trouvait. Et pourtant, le texte insiste, Jésus aimait cette famille. Lorsqu'il décide de se rendre enfin à Béthanie, Jésus sait que Lazare est mort. Son manque d'empressement semble avoir eu pour but de s'assurer que Lazare était bien mort. D'ailleurs, il dit à ses disciples qu'il est content de n'avoir pas été sur place, parce que ainsi ils le croiront. Si Jésus avait assisté au dernier souffle de son ami puis l'avait réanimé, on aurait pu douter. Des détracteurs auraient pu affirmer qu'il n'était pas vraiment mort. Mais dans ces circonstances, pas de doute possible, puisque Jésus était encore loin quand le décès a été prononcé. Le début de ce récit est troublant, de même la fin. Pourquoi aucune place n'est-elle donnée à une parole de Lazare? Un homme mort revenu à la vie, quoi de plus inédit, on aurait aimé qu'il nous en dise quelque chose. Non, rien. Rien parce que le centre de l'histoire n'est pas vraiment Lazare. Lazare n'est pas vraiment le personnage principal de ce récit, c'est Jésus. Et personne d'autre dont il est question ici, de sa mort à lui, et de sa résurrection, qui s'approche à grands pas, qui sera d'une autre teneur. Même si paradoxalement Lazare n'occupe qu'une place secondaire dans cette histoire, l'événement n'en devient pas pour autant totalement déshumanisé. Au contraire, c'est probablement un des récits qui met en scène un Jésus particulièrement humain, capable d'émotion. Il se laisse troubler, ne sait pas quoi répondre au désarroi de Marie face à la mort de son frère. Nous sommes bien loin d'un Jésus sûr de lui, qui porte une parole empreinte de sagesse en toute situation. Cette humanité culmine dans le verset 35. Le plus court est sans doute un des plus marquants du Nouveau Testament. Deux mots seulement. Jésus pleura. Humanité et vérité font la force de ce récit. Marthe, autant que Marie, expriment leur révolte face à la vie, face à la mort. Une révolte peut-être aussi contre Jésus lui-même. Toutes deux lui disent « Si tu avais été là, il ne serait pas dans le tombeau. » Révolte ou marque de confiance. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas empressé de venir au secours de son ami? Pourquoi, quelque part, les a-t-il abandonnés, Marthe, Marie? Elles sont directes avec lui. Elles sont humaines. Elles sont vraies. Et la mort aussi est vraie. 4 jours que Lazare est dans le tombeau. Le corps doit sentir. La mort, comme les sentiments, n'est pas édulcorée. La préoccupation de Marthe est tout ce qu'il y a de plus terre à terre. Elle est vraie. Et c'est au cœur même de cette humanité, de cette vérité, que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Les événements qui l'attendent et ne le laissent pas lui-même indifférent. S'il est vrai qu'il ira librement jusqu'au bout, la perspective de la croix le bouleverse. L'assurance de la résurrection n'enlève rien à la douleur de la mort, ni à la difficulté de la séparation. Certes, elle évite de se perdre dans le désespoir, mais le deuil demeure. La résurrection ne rend pas la mort légère, celle-ci demeure une épreuve. Affirmer le contraire serait fausse consolation. La mort demeure épreuve, mais désormais elle n'est plus la fin. Lorsque Jésus dit à Marie que son frère reviendra à la vie, celle-ci lui répond « je sais qu'il ressuscitera à la fin des temps ». À l'annonce de la résurrection, Marthe prononce une confession de foi, presque une leçon apprise par cœur, une manière peut-être de se rassurer, de se raccrocher à son savoir, mais un savoir qui lui apporte peu de consolation et surtout qui ne veut pas dire grand-chose dans ces circonstances. La fin des temps, c'est loin, bien trop loin pour lui porter quelque réconfort face au décès de son frère. À cette affirmation d'un lointain futur, Jésus répond par un présent. Je suis. Je suis la résurrection et la vie. Au travers de la foi en Jésus-Christ, Marthe peut connaître dès à présent la réalité de la résurrection, la vie qui émerge même au cœur de la mort. À 15 jours de Pâques, le dialogue entre Marthe et Jésus nous rappelle que la résurrection est tout sauf l'objet d'un savoir. Les plus belles tournures de phrases, les assertions les plus dogmatiquement exactes ne demeurent toutefois que des choses apprises. Elles ne sont pas fausses et elles permettent de se raccrocher à quelque chose lorsque la foi est mise à mal. Mais la résurrection n'est pas objet de savoir. La résurrection est le sujet de la foi. Un acte de confiance, un acte d'espérance qui engage toute notre personne. Que les 2 semaines à venir qui nous amène jusqu'à Pâques, nous donne l'occasion de nous confronter et de confronter notre foi, de nous questionner sur ce qui nous porte véritablement, de nous demander comment nous vivons de cette espérance. Sors, sors et viens à moi, a dit Jésus à Lazare. À notre tour, entendons son appel et allons à lui. Risquons-nous à la vie nouvelle dès aujourd'hui. Amen.